Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
RMC Football Show,
Jean-Louis Tour.
Il est 18h, bonsoir à tous, c'est parti pour le RMC Football Show spécial. Troisième journée de Ligue 1. Elle débute ce soir avec Brest-PSG. On sera sur place dans ce RMC Football Show et on va débattre avec nos correspondants en région et Lionel Charbonnier de la Dream Team. Salut Lionel.
Salut Jean-Louis, salut à tous.
Ah, il y a plein de choses encore ce soir. Plein d'infos mercato à vous donner, plein de débats à faire. Vous allez pouvoir venir au 32-16. Appelez-nous pour participer. La concurrence va-t-elle faire du bien ou du mal à Steve Mandanda dans les buts de l'Olympique de Marseille? Pour l'instant, il a un peu de mal sur les deux premières journées. Florent Germain sera avec nous. Sampaoli en a parlé aujourd'hui. 32-16, appelez-nous, supporters de l'OM. Le débat sera à 19h. Le discours cash de Peter Boss à Lyon va-t-il porter ses fruits? Là aussi, gros débat parce que Peter Boss a de nouveau montré sa fermeté aujourd'hui en conférence de presse. Edouard G va nous raconter ça à 18h30. Et puis donc le mercato, supporter de Montpellier, est-ce que vous êtes prêt à comprendre un départ d'Andy Delors, votre capitaine? Christophe Galtier n'a pas caché l'intérêt de l'OGC Nice pour l'avant-centre de Montpellier. Les infos à 18h45. Si vous n'avez pas entendu Christophe Galtier, vous pourrez l'entendre tout à l'heure. Mais on va débuter par l'équipe de France, l'Euro raté pour les Bleus et Didier Deschamps qui s'est enfin expliqué.
Coman qui se bat comme un beau diable, Babou qui récupère le ballon sur le côté droit, le centre fort devant le but, la réduction de l'écart, le but pour la Suisse. Attention avec le décalage, avec la frappe derrière et le but. Gavrano but, cette fois-ci il n'est pas en jeu. Et la Suisse qui va arracher dans les dernières secondes du temps réglementaire le match nul à 3 partout. Kylian Mbappé face à Sommer. Kylian Mbappé, arrêt de Sommer. Arrêt de Sommer. C'est un cauchemar pour Mbappé. C'est un cauchemar pour l'équipe de France qui est éliminée. Qui est éliminée de l'Euro 2020 en 8e de finale.
Ah oui, les mauvais souvenirs, hein. Ça paraît loin tout ça, c'était il n'y a pas si longtemps quand même, 7 euros, donc où l'équipe de France s'est fait sortir par la Suisse, grosse déception pour les Bleus champions du monde. Et donc Didier Deschamps ce matin dans l'équipe s'est expliqué sur plusieurs points. Alors je vais vous détailler ses phrases, en tout cas appelez-nous au 32-16, on a l'impression qu'il regrette d'avoir été trop offensif. Venez nous dire ce que vous en pensez, 32-16, et ce que vous avez pensé de ce mea culpa de Deschamps, si on peut parler de mea culpa. Alors déjà, premier aspect, Lionel, donc Deschamps dit « je n'ai pas envie de chercher d'excuses, je sais que je suis le seul responsable, c'est ma fonction qui veut ça ». Bon, il dit ça, mais après il avance quand même d'autres éléments. Alors, même s'il dit « je veux pas quand même trop argumenter, sinon on va croire que je me cherche des excuses ». Sur le fameux choix tactique face à la Suisse, la fameuse défense à 3 qui sortait un peu de nulle part, il dit « bah ça n'a pas fonctionné, je me suis pas entêté ». Mais ce n'était pas une erreur, juste un choix. Je sais pourquoi j'ai fait ce choix pour cette première période qui a été ratée. Alors il rappelle aussi très souvent dans l'interview que l'équipe de France menait 3-1 face à la Suisse à la 80e minute, sous-entendu il ne faut pas tout jeter parce qu'au niveau du résultat on était quand même pas loin et c'est un peu un coup du sort ce qui s'est passé. Et puis donc sur ses idées de jeu, Lionel, on lui demande, nos confrères de l'équipe lui demandent pourquoi il n'a pas conservé l'équipe qu'il avait alignée contre l'Allemagne. L'équipe de France s'était imposée lors du premier match. Il dit même si on a été solide, l'Allemagne a eu une telle maîtrise que je voulais améliorer la créativité dans le secteur offensif. Deschamps rajoute, je voulais qu'on soit plus brillant, sachant qu'on serait moins solide. À l'arrivée, il vaut peut-être être moins brillant et plus solide. Et puis il ajoute, ça fait partie des leçons que je tire de 7 euros. Même si j'en avais la conviction avant, j'ai eu la confirmation. On peut jouer avec 4 attaquants sur une demi-heure ou sur une partie du match, mais pas toute une rencontre contre une équipe qui peut avoir le ballon. Donc, on a l'impression que Deschamps regrette d'avoir voulu jouer un peu plus offensivement. Est-ce que toi, ça t'étonne d'entendre ces paroles du sélectionneur?
Oui, un petit peu, parce que après Didier parle. Bon, déjà, il dédouane tous ses joueurs, c'est normal. Il en prend l'entière responsabilité venant de Didier, ça m'étonne pas du tout. Qu'il dise que son choix, enfin la tactique, c'était un choix. Enfin, je parle de la Suisse. C'était ça hein, ta première question.
Ouais, ouais.
Je parle de la Suisse. C'était un choix qui n'a pas marché. C'était surtout un choix guidé. C'était un choix qui a été entretenu aussi et discuté par les joueurs et amené par les joueurs eux-mêmes. Oui. Chose qui ne serait jamais arrivée avant.
Oui, ça, il n'en parle pas, effectivement.
Et on n'entend pas du tout parler de ça. Moi, j'aurais aimé, oui et non, parce qu'on le sait, la finalité, on la connaît, et Dédé aurait tapé en touche par rapport à une demande comme celle-ci. Si les joueurs avaient décidé eux-mêmes, il aurait dit non, c'est moi qui prends les décisions, je suis le seul responsable. Il aurait tapé en touche, mais c'est quand même quelque chose, c'est une attitude des joueurs qui n'existaient pas avant. Didier parle beaucoup de la tactique, parle beaucoup des choix offensifs, parle beaucoup de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, cet ADN, il parle aussi d'une ADN. On avait dans ce groupe une ADN défensive.
Oui.
Mais surtout, il y avait surtout une ADN de l'humilité, avant tout.
Ouais.
Avant tout, et si cette équipe prend que Pogba perd la balle, Pogba a perdu des balles en Coupe du Monde. Il y a pas eu de souci derrière. C'était pas la première balle qu'il perdait Paul depuis la Coupe du Monde. Et derrière, on s'en est tout le temps bien sorti. Si on s'en est pas sorti, c'est parce que le problème, il n'était pas pour moi que tactique, avec des joueurs offensifs, trop de joueurs offensifs ou tout ça. C'est parce qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. C'est pas la faute à Dédé. Ah, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Dédé n'aurait jamais pris non plus dans ses 23 joueurs, n'aurait jamais pris 3 latéraux pour le côté gauche ou 3 latéraux pour le côté droit. Il ne l'a jamais fait. Ça a été un coup du sort. Le fait qu'on joue en 3-5-2. Contre la Suisse pour je sais pas combien ça a tenu, un quart d'heure, je sais plus de mémoire, à peine un quart d'heure. Le fait qu'on joue comme ça, c'est parce que quoi qu'il arrivait, de toute façon, même si ça avait été durant la Coupe du Monde, il aurait été embêté.
Ouais.
C'est pas parce qu'il avait pris 4 attaquants que voilà. Moi je suis un petit peu déçu, tu vois, par rapport à tout ça.
Et je crois que j'ai l'impression que c'est là aussi où tu veux en venir, c'est qu'il y a pas un mot sur la gestion humaine. Alors peut-être qu'ils considèrent,
pour moi le souci il est là.
Voilà, alors parce que peut-être qu'ils considèrent que ça se règle entre lui et les joueurs. En tout cas, il n'en parle pas du tout dans l'interview. Et parce qu'il y a plusieurs cas sur lesquels il est interrogé. Pogba d'abord. On se souvient l'énervement de Pogba après la perte de balle, il se prend un peu la tête avec Pavard et Deschamps discute beaucoup avec lui. Bah Deschamps ce matin dit oui, bah il était énervé. Parce que ce qui se passait, ça ne doit pas nous arriver. Il y a de la frustration, mais il a retrouvé son calme assez vite.
Quand tu l'as vu, cet énervement durant la Coupe du Monde, jamais. Il n'est jamais arrivé. Là où il y a eu de l'énervement, en Coupe du Monde, il y avait de la solidarité. Donc, pour moi, la vraie question, elle est là, dans la gestion humaine, la gestion des égos.
Autre polémique, il y a eu Coman, qui refuse de sortir. Là aussi, le ton monte en prolongation. Et là aussi, il en fait un non-événement, Didier Deschamps. Deschamps dit il a un historique en équipe de France, il a souvent été blessé. Lorsqu'il a cette blessure, moi je lui dis que comme c'est musculaire, il va pas pouvoir tenir. Lui, il a voulu continuer, c'est humain, ça part d'un bon sentiment, donc il y a aucun problème. Et quand on continue de chercher parmi les polémiques qu'on a vues quand même, alors il y en a une qui reconnaît, c'est les propos d'Olivier Giroud sur Kylian Mbappé dans les matchs de préparation.
Ça a commencé par là.
Exactement. Alors Deschamps dit, alors c'est vrai que je lui ai dit qu'il n'avait pas à dire ça, car ça a mis de la tension pendant 2-3 jours en équipe de France sur Mbappé. Et tu sais, il y a un autre truc aussi dans la gestion des égos, c'est les coups de pied arrêtés, on en a beaucoup parlé.
Exactement.
Bah là, Deschamps dit qu'il n'y a pas de souci, tout était carré. Benzema a pris le pénalty lors d'un match, c'est pas grave, c'est bien passé auprès du groupe. Les coups francs, c'était soit Kylian, soit Antoine, comme pour les corners, c'est à eux de gérer. En gros, il n'y avait aucun problème de ce point de vue-là.
Sauf qu'en amont, Kylian avait dit, pour l'instant, non, c'est Kylian,
oui,
ou
sur les pénalties. Oui, oui.
On ne sait c'est pas ça. Encore qui va tirer les pénalties.
Ouais.
C'est quelque chose, quelque part, que toutes ces réflexions-là, tout ce que tu viens de d'énumérer, Jean-Louis, on ne l'a jamais eu du temps de la Coupe du Monde.
Ouais,
ça
n'existait
pas. Pour moi, c'est le vrai souci, et Didier le sait pertinemment. il est là. Et s'il a répondu sur un autre sur un autre chemin, c'est pour dévier le truc. Mais le vrai souci, il est là. Et je peux te dire, je suis certain que dès qu'il va refaire sa liste, je crois que c'est le 26, hein, qu'il fait sa liste, sa prochaine liste.
Ouais, jeudi prochain.
Il va y avoir une petite conférence entre quatre yeux. Et là, il va mettre les points sur les i. Et il va pas insister, il va pas dire « Ah oui, mais non, mais j'ai fait des choix trop offensifs et tout ça ». La première chose qu'il va dire, c'est « On revient à des sentiments humains où le groupe va être privilégié par rapport à l'individu.
Mmh, mmh.
Ça, c'est... Mais c'était ça. Alors c'était après, la force. Et ça a été notre faiblesse.
Deschamps dit un truc quand même, hein, sur la comparaison avec 2018. Il dit, c'est aussi parce qu'on a perdu que tout est surdimensionné et tout prend une proportion énorme. Donc, sous-entendu, il y a beaucoup de choses qu'on met dans la catégorie polémique qui, si l'équipe de France avait gagné, se serait passé à l'as. Il dit, par exemple, l'histoire de l'extincteur en 2018. Bon, bah, on en rigole aujourd'hui, mais si on se fait sortir par l'Uruguay, on en fait des caisses de cette polémique avec les joueurs réveillés en pleine nuit. Voilà, c'est ce que dit Deschamps sur pas mal de choses pour balayer un peu les polémiques.
C'est normal.
Ouais. Et d'ailleurs, aussi autre explication sur l'euro de Mbappé de la part de Deschamps, quand on lui demande ce qu'il a pensé de son euro. Il dit il avait de la détermination, de bonnes intentions.
À l'entraînement.
Il a pas eu l'efficacité en match. Après, il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut le sortir ou pas. Lui dit, Deschamps, bon, bah, ça fait partie de ces grands joueurs qui peuvent marquer à tout moment, même
exactement,
en étant moins
ça,
bien.
Je suis d'accord.
Comme contre la Croatie, où il l'avait fait lors des matchs précédents avec l'équipe de France.
Là, je suis d'accord.
32-16, on vous donne la parole pour réagir aux propos de Didier Deschamps. On va revenir dans une seconde. Il y a encore des déclats sur Olivier Giroud qu'il faut analyser. Tu me diras ce que t'en penses, mais on a le sentiment quand même qu'entre les lignes, il a un peu sonné la fin de Giroud en équipe de France. 32-16 pour en débattre. On vous attend dans le RMC Football Show. À tout de suite.
RMC Football Show, Jean-Louis Tour.
18h13, c'est le RMC Football Show avec Lionel Charbonnier. Place à la Ligue 1, 18h30. On part à Lyon, supporter de l'OL, 32-16. Appelez-nous pour nous dire si vous avez confiance en Peter Bosz et son discours plein de franchise directe, comme ça a été le cas encore ce matin. On vous donne la parole tout à l'heure. Mais on continue sur l'équipe de France. Lionel, les explications de Didier Deschamps après l'échec de l'Euro. Donc on a balayé pas mal de sujets.
Ouais.
Je voulais qu'on parle également d'Olivier Giroud, parce que là, ça sent pas bon pour lui.
Tu crois ?
Bah, écoute, moi, c'est comme ça que je l'interprète,
Mais si il flambe avec Milan ?
Écoute, là, effectivement, parce que le postulat, c'est de dire que Giroud, sa situation s'est dégradée en club. Deschamps le dit.
À l'époque, voilà. Elle s'était dégradée au moment de la sélection.
Depuis février, il ne joue pas. C'est le haut niveau. J'ai été honnête et transparent avec lui depuis février. Je sais ce que je lui dois, mais attention, on n'est plus en 2018. On est en 2021 maintenant. Je ne suis pas là pour donner des assurances à qui que ce soit. Est-ce qu'il sera dans la liste annoncée la semaine prochaine ? Ça fait partie de ma réflexion. Giroud qui a 5 buts du record de Thierry Henry, comme meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Et effectivement, qui vient de signer à Milan. Bon, à Milan où il y a Zlatan aussi, à voir si c'est le temps de jeu qu'il pourra avoir. Mais on a l'impression quand même que Deschamps essaye de bon, prépare la page qui se tourne. Après, tu l'as peut-être pas interprété comme ça, Lionel.
Si c'est pour la prochaine sélection, il est fort probable qu'Olivier ne soit pas là. Maintenant, si Olivier continue à performer avec le Milan AC, moi je pense qu'il sera rappelé.
Ouais.
Parce que c'est quelqu'un, c'est quand même un homme fort de cette équipe de France. C'est quand même quelqu'un qui a un vrai vécu avec l'équipe de France, qui ne m'a jamais déçu, et ni Dédé, je peux te le dire.
Il défend quand même tout le monde dans cette interview, sauf Giroud. Il parle de la polémique de la préparation.
Ouais, il l'a pas enfoncé
là, sur l'avenir.
Il a dit la vérité là-dessus. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Et puis, c'est aussi une manière de dire, quelque part, bon, bah, j'ai été obligé aussi de prendre Karim Benzema.
Ouais, alors ça, bon, il dit pas j'ai été obligé, il regrette pas du tout le choix, même sur le timing, il dit voilà, ouais, ça s'est fait comme ça.
Il y a pas de choix à regretter du tout.
Non, il a fait exactement ce qu'il fallait.
Exactement.
Toutes les questions sur Benzema, d'ailleurs, il le défend. Christophe nous rejoint au 32-16 dans le RMC Football Show. Salut Christophe.
Salut
Christophe.
Je crois que tu voulais revenir Lionel. Justement sur les explications sur Giroud de Deschamps.
Moi je suis pas tout à fait d'accord avec Lionel. Moi je pense qu'il a fait dans sa tête, c'est clair. À moins que Olivier Giroud marque 5 buts par match avec le Milan AC, j'ai pas l'impression qu'il va le reprendre, quoi. Sa position, elle est pas du tout la même qu'il y a 6 mois en arrière. Et pourtant, il y a 6 mois, il jouait pas. Ouais. Il a clairement fait un choix. Enfin, en tout cas, selon moi.
Mais Christophe, tu crois pas que si Giroud performe avec le Milan AC qui retrouve l'Europe, moi je pense que il sera presque obligé, même de pratiquement de le reprendre. Je pense.
Presque obligé, mais t'as pas l'impression que là il a fait clairement un choix parce que Giroud il a un certain âge. Et puis qu'il veut confier les clés du camion à
Karim,
à Karim et plutôt à Mbappé.
À Mbappé. Écoute, qu'il ait fait
c'est
le.
L'avenir, je suis d'accord.
Tu sais, quand t'es sélectionneur, bien évidemment, t'as raison. Mais quand t'es sélectionneur, tu prends aussi des mecs sur lesquels tu peux t'appuyer. T'es sûr. Regarde Sissoko, il est toujours là.
Ouais, mais Sissoko l'a pas ramené comme il a pas fait la même déclaration qu'Olivier Giroud. Et là, Olivier Giroud, quand il a fait cette déclaration, moi je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Je suis un fan inconditionnel de Giroud. Il a fait preuve d'abnégation, il est extraordinaire. Et quand il a fait cette déclaration, pour moi, dès qu'il a fait cette déclaration, je me suis dit lui, il vient de se tirer une balle dans le pied.
T'as pas tort. Mais d'un autre côté, il faut. Alors après, il faut. Comment dire ça? S'il y a eu cette déclaration, c'est aussi.
C'est pas pour rien.
Oui, c'est-à-dire que en amont, il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas si bien que ça dans le vestiaire.
On est carrément d'accord, mais il a crevé l'abcès, hein, mais il a crevé l'abcès devant tout le monde, quoi. À la télé.
C'est vrai que normalement, après, il a pas dit non plus, c'était pas quelque chose. Je me souviens plus, qu'est-ce qu'il a dit exactement? C'était pas
normal. En fait, il cite personne dans sa déclaration. Ouais. Je me souviens
un peu. Il dit qu'il avait pas assez de ballons, voilà, que Mbappé lui avait pas donné.
Il peut faire les déplacements qu'il peut, tous les déplacements possibles et inimaginables, mais il aura pas le ballon.
Ouais,
en gros, c'est ça, quoi.
Ouais, alors ça, c'était plus une mauvaise analyse, à mon avis.
Le journaliste, il l'a bien piqué juste avant. Quand il pose la question, je trouve quand même qu'il le pique un peu. Mais ça n'empêche que quand il fait cette déclaration parce que il n'est pas débutant, quoi. Il est le haut niveau, il connaît, il est champion du monde, il a fait ses preuves, il n'a plus rien à prouver à personne. Et quand il dit ça, c'est pas pour rien.
Et alors, au-delà de Giroud et des polémiques, là, t'as pensé quoi des explications de Deschamps pour expliquer l'échec?
Je trouve que
offensif.
Moi, ça me convient pas. Ça me convient pas. Moi, je trouve qu'il aurait dû accepter le fait que, en fait, ce qu'il a fait Deschamps, et contrairement, c'est tout l'inverse de ce qu'il faisait auparavant. Il a laissé les clés à certains joueurs et lui, il s'est mis un petit peu en retrait et en fait, ça n'a pas fonctionné, quoi. Mmh. Voilà, les coups francs, moi, j'avais déjà appelé avec Eric Dimeco. Pourquoi Kylian Mbappé va tirer les coups francs? Il n'a jamais marqué un coup franc à part à l'entraînement.
Bah oui, non, mais ça, c'est sûr que sur le moment, ça nous a tous étonnés.
Il y a des signes qui ne trompent pas, hein, quand même, hein, quand tu regardes un match. Voilà, quoi. Griezmann, il s'efface devant Mbappé parce que Mbappé, je trouve que, il veut s'imposer, mais c'est malheureusement au détriment de l'équipe. Et je pense que là, Didier Deschamps, il devrait plutôt dire, je vais recadrer certains joueurs. On va remettre tout en place. On met tout à plat. Et le patron, c'est moi.
Mais Christophe, je pense que ça va être fait. Hein. Comme je disais, je pense à 99,9%, je peux te dire que ça va être fait. Et il va pas parler comme il a parlé là dans la presse. Il va leur parler des attitudes, de l'ADN justement, de ce qu'était vraiment. Parce que il y avait pas de star à cette Coupe du Monde. La seule star qu'il y avait, c'était Dédé. C'était lui la star. C'était lui qui focalisait tout. C'était lui le fusible par rapport à la presse et tout ça. Et les joueurs ont été libérés. Après, 3 ans après, et c'est là où tout a changé. Et c'est là où il va recadrer les choses. Parce qu'en plus, c'est facile, c'est le moment de le faire. Et à la limite, presque tu te dis, à la limite, tant mieux que ce soit passé comme ça. Attention, il ne faut pas le prendre au premier degré. Mais en te disant, puisque les égos ont été et ont changé et ont été surdimensionnés en 3 ans, les gars, revenez sur terre. On va remettre un petit coup de boulon et puis on va resserrer tout ça et on va revenir à des valeurs qui étaient les nôtres, celles qui nous ont fait devenir champions du monde. Et là, c'est un bon coup de. Je pense aussi, c'est un bon coup dans le viseur de tous les joueurs, savoir comment mener sa carrière après un gros titre. C'est pas facile.
Voilà. Et est-ce que tu penses que. Alors, en tout cas, c'est mon avis. Est-ce que tu penses que certains joueurs mériteraient peut-être une petite sanction du genre, pendant un match, je te prends pas, mon gars? Maintenant,
évidemment. Bien évidemment. Mais je suis d'accord avec toi.
On va viser personne. Hein, je veux viser personne parce qu'on a des super joueurs. Mais enfin voilà quoi. Il y a des mecs comme Giroud, je pense que Giroud, en gros, c'est un taulier quoi, dans cette équipe. Parce que sans Giroud, par exemple, moi je suis convaincu, si tu n'as pas Giroud à la Coupe du Monde, tu ne gagnes pas la Coupe du Monde.
Ah oui, bien sûr. Après
c'est tout. La Coupe du Monde, excuse-moi Jean-Louis, ouais, la Coupe du Monde, c'est franchement tout pour gagner une Coupe du Monde. Honnêtement, les gens peut-être vont se dire bon, attends, il dit n'importe quoi, mais non, c'est la vérité. Il faut que ce soit au moindre détail, le plus petit détail prêt doit être, mais vraiment anticipé. Il faut vraiment que tout aille très bien. Et cette Coupe du Monde, elle s'est gagnée parce que tout était très bien, la sélection était bien faite, les têtes étaient bien mises, tout allait dans le bon sens et tout ça. Le championnat d'Europe, c'était un petit peu le championnat d'Europe. Après, ce qu'ils ont vécu en championnat d'Europe, c'est exactement. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
T'es bien placé pour le savoir, Lionel. La similitude, tu trouves pas? Enfin, en tout cas, pour moi, je fais une grosse similitude entre France 98 et 2018.
Par rapport à la Coupe du Monde 2002.
Mais Jacquet, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux façons de procéder, de construire un groupe.
Alors la différence, Christophe, c'est que Deschamps est toujours là, même après l'échec. Il l'a dit, il avait envie de continuer. Il l'a dit à Noël Le Graët, il a toujours cette envie en lui. L'équipe de France, c'est ce qui lui arrivait de mieux. Et même après 2022, même s'il y aura peut-être pas de prolongation avant le Qatar, il a quand même envie de continuer. Toi, tu le souhaites?
Moi, ça me dérange pas qu'il continue. Ouais. Mais après, je ferai juste je trouve qu'il y a une similitude entre la Coupe du Monde 2018 et 98. J'ai l'impression qu'il a fait exactement ce qu'a fait Aimé Jacquet. Il a construit un groupe, il n'a pas pris que les meilleurs, il a pris ceux qui se respectaient, ceux qui étaient capables de jouer les uns avec les autres, pour les autres, et puis il a pris il a pris aussi des guerriers.
Alors la plus grosse similitude, Christophe, moi je dirais que c'est entre championnat le 2020, et Coupe du Monde 2022.
Championnat 2020, c'est-à-dire
Championnat d'Europe.
Euro 2021, ouais.
L'Euro.
Ouais.
L'Euro et l'Euro 2000.
Et la Coupe du Monde 2022.
De 2002. Ah oui, d'accord.
Pour moi, la plus grosse similitude,
c'est plus dans l'échec que dans la victoire, en fait, tu veux dire.
Exactement.
Exactement. Regardez plus dans la victoire, toi. Mais bon, en même temps, je suis d'accord avec toi aussi, ouais. Tout à fait. Mais en fait, les choses se suivent en fait.
Mais la différence près, à la différence près,
c'est pas la même compétition.
Et puis, à la différence près, c'est que cette équipe est très jeune, est beaucoup plus jeune que nous.
Oui, c'est vrai.
Nous, on avait une moyenne d'âge en 2002, on avait une moyenne d'âge de 34 ans pratiquement. Là, eux n'ont pris que 3 ans de plus après cet échec, après la victoire de la Coupe du Monde. Et ils sont encore capables de se refaire la cerise et d'être champions du monde derrière. Le même groupe pratiquement.
On va en rester là sur les bleus. Christophe, merci beaucoup d'être venu au 32-16.
Merci à
bientôt. Tu reviens quand tu veux, bien sûr, pour débattre avec nous. Et on revient dans un instant avec Lyon. On programme le discours cash de Peter Boss. Va-t-il porter ses fruits? Ce matin encore, il a été offensif. Edouard G va nous raconter ça dans une seconde. À tout de suite.
RMC Football Show, Jean-Louis Tour.
18h29, Lionel Charbonnier est là pour présenter la troisième journée de Ligue 1 qui débute ce soir avec Brest-PSG et plusieurs enjeux que l'on va détailler autour de ces matchs et du mercato. Supporters de Montpellier, est-ce que vous êtes prêts à accepter un départ d'Andy Delors? Le débat à 18h45 puisqu'à Nice, Christophe Galtier a confirmé un intérêt de l'OGC Nice pour l'avant-centre de Montpellier. On en parlera tout à l'heure, 32-16 supporters de Montpellier, mais tout de suite place à Lyon. Edouard G nous rejoint, notre correspondant. Salut Edouard.
Salut Jean-Louis, salut Lionel.
Salut Doudou.
Bonsoir à tous.
Lyon qui reçoit Clermont dimanche à 13h. Les Lyonnais qui sont déjà au pied du mur, avec un point seulement en deux journées, ça va vite. Et donc il y a eu toute cette semaine agitée avec la mise à l'écart de Marcelo et un discours direct, franc, cash de Peter Boss. Écoutons un extrait et Edouard, tu nous raconteras le reste de la conférence de presse ce matin.
J'ai dit déjà tout de suite après le match que le foot commence avec cette mentalité pour travailler, pour donner tous pour l'équipe. Bien sûr, j'ai parlé après avec les joueurs et je lui dis encore une fois ça. Normalement, tu dois pas dire ça comme entraîneur, ça c'est normal, ça c'est la base. Mais bien sûr, j'ai dit encore une fois et il faut le dire cette semaine pendant l'entraînement. J'ai vu ce comportement, ce travail, j'ai vu vraiment donc. Ça, c'est déjà une bonne première pas.
Voilà, il sent que les mentalités commencent à évoluer parce que c'est ce qui a rythmé toute la semaine lyonnaise, Edouard.
Oui, la chronique, on l'a débutée mardi soir, hein, ici même. Souviens-toi, Jean-Louis, je vous racontais un petit peu ce qui s'était passé dans la journée dans le vestiaire, l'histoire Marcelo. Ensuite, on a eu bien évidemment d'autres informations tout au long de la semaine. Mais quelle semaine elle peut marquer, d'ailleurs, l'histoire, on va dire, de Juninho en tant que directeur sportif. Hein, c'est ce que je vous disais mercredi soir. Il a pris ses responsabilités dans le vestiaire en pointant du doigt la mentalité de quelques-uns. Et ben, on voit que tout cela est repris aussi par les Bad Guns qui ont fait quand on est arrivé ce matin à l'entraînement à 9h, mais ils venaient d'avoir posé une banderole bougez-vous ou cassez-vous. C'était en grosses lettres blanches sur fond noir. Il n'y avait rien d'autre, juste ce message. Et ensuite, il y a eu un message sur les réseaux un petit peu plus construit, plus riche, de deux pages, très bien écrit, avec beaucoup de formules. Et là aussi, c'est un petit peu comme Peter Bosz, c'était cash, hein, les supporters qui pointent une mentalité, je cite, pourri, un individualisme, une suffisance, de l'irrespect. Ça vise ceux qui viennent à Lyon et qui utilisent le club comme tremplin. Mais ça, c'est nouveau aussi, et ça rejoint tous les débats de la semaine. Aussi, ceux de l'académie, je cite, à l'ego surdimensionné. Il faut lancer un grand ménage. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Bad Guns, et on a l'impression un petit peu qu'ils lisent sur tout ce qu'a dit Juninho. Il faut faire le tri. Et puis,
oui, parce que d'ailleurs, là-dessus, Bosz a dit, la banderole, on me l'a racontée, et je suis d'accord avec ça. Le fameux bougez-vous ou cassez-vous, je suis d'accord avec ça.
Ouais, c'est franchement, c'est alors Peter Bosz en conférence de presse, c'est un régal, hein, c'est du cash, il ne fuit pas les responsabilités, et il parle bien français, il sait ce qu'il dit, franchement, c'était très intéressant à ce niveau-là, et je peux vous dire que l'entraînement de mercredi a été intense. Et puis alors on voit pas grand-chose nous, mais aujourd'hui on a vu 20 minutes d'échauffement, et là où certains parfois s'amusaient avec les caméras en faisant des gestes, en faisant des petits gris-gris pour montrer ou souriaient un petit peu comme les Brésiliens, toujours un petit peu là il y avait pas un bruit. Juste pour les petits taureaux d'échauffement, Lionel, Jean-Louis, ça veut peut-être dire déjà que des messages sont passés. On a vu des mines, par exemple, de Ryan Cherki ou d'Oussem Aouar vraiment concentrés. On a vu, j'ai vu un ou deux tags, vous savez, dans les
skis. Ils avaient mis les protèges.
Ah, j'ai pas, ils étaient un petit peu loin, j'ai pas vraiment fait attention, mais pourquoi pas. Et alors, il y a ça, et puis il y a aussi. Il y a aussi celui qui était en conférence de presse aujourd'hui, Damien Da Silva, qui va faire ses débuts à Lyon parce que les deux premiers matchs étaient pour lui suspendus, donc lui qui vient de Rennes. Et on a entendu quoi ? On a entendu dans ses mots la combativité, on a entendu la soif de gagner, on a entendu l'énergie à mettre, on a utilisé le mot collectif. Et juste derrière, Peter Bosz a utilisé, vous l'avez entendu, hein, quelques mots, mais surtout après, quand on lui parlait d'Emerson Palmieri qui a signé officiellement hier soir, eh bien, il a redit beaucoup de bien de Emerson Palmieri, et il a pas trop voulu insister sur l'aspect il s'est bien jonglé, il s'est bien tiré du pied gauche, il s'est bien centré, etc. Non, il parlait de ses valeurs qu'il a en lui et qu'il a aussi aguerri du côté de Chelsea, c'est-à-dire à Chelsea où tu dois gagner tous les matchs. Ouais. On a besoin d'une certaine qualité, et en ce moment on a besoin de joueurs qui savent ce que c'est que de gagner des matchs.
Il y a voilà besoin d'état d'esprit, de changement d'état d'esprit.
Exactement, et ça a vraiment percé à l'entraînement et dans les mots. Maintenant, il faut que ça passe dans les gestes.
Lionel, tu crois qu'on va voir la différence dès ce week-end?
Possible, parce que les Lyonnais ont tout le temps été en réaction, et c'est ce qui énerve aussi la plupart des supporters, pour pas dire pratiquement tous, lyonnais. C'était en tout cas tous mes potes me disent, mais un coup ils sont bien, un coup ils sont pas bien, un coup tu dis ça y est c'est parti, puis tout d'un coup il y a un relâchement. C'est vraiment mental, et ce qui m'embête, et Doudou l'a dit, c'est que ces joueurs, la plupart des joueurs prennent aujourd'hui l'Olympique Lyonnais comme un tremplin. Et ça m'embête pour aller plus haut. Ça m'embête. C'est quand même une belle institution, Lyon. Faut regarder le palmarès quand même. C'est pas n'importe quoi. C'est comme si, je ne comprends pas. Et quand tu prends ce club pour un tremplin, alors pourquoi tu ne te mets pas dès la première minute et dès ta première minute d'entraînement dans une peau d'un mec qui veut se vendre très bien, très haut, très fort dans le plus grand club? Ça veut dire travaille comme un fou et peut-être un petit peu le goût du sang dans la bouche de temps en temps à l'entraînement pour que dans les matchs ça soit un petit peu plus facile peut-être et puis ça va commencer par ça parce qu'on joue comme on s'entraîne. Si les mecs, là Doudou a dit attention, ça l'a marqué, oh il n'y avait pas un bruit, il n'y avait rien du tout, ça veut dire que d'habitude c'est pas comme ça, ouais. Ça veut dire que c'est la dilettante, ça veut dire et tu joues comme tu t'entraînes, comme on s'entraîne, on l'a dit hier avec
Walter
Benitez, ouais. Il disait, mais c'est, ça vient pas de moi, ce sont tous mais les
d'ailleurs,
joueurs
Boss,
qui te disent ça.
Boss, ça le rend fou parce que.
Mais bien évidemment, il a raison.
Il peut, et c'est ce qu'il a dit dans la conf de presse tout à l'heure, il peut même pas parler de tactique et de jeu puisque le minimum n'est pas là, c'est-à-dire l'état
évidemment.
D'esprit, l'investissement.
Mais
normalement, c'est
évidemment.
Un truc acquis sur lequel un entraîneur n'a pas insisté.
Mais c'est le pire pour un entraîneur. Ah ouais. C'est le pire parce que le problème, c'est que si tu regardes dans le passé, ça a toujours été. Ça a toujours été. Il y a eu Genesio après l'éviction. Déjà, Genesio, on disait ah c'est la faute à Genesio machin mais ces joueurs là étaient quand même ils étaient tout le temps sur le clignotant, écoute c'était bien, écoute c'était pas bien, écoute ça revenait et tout. Bon, on a dégagé Genesio, on a mis Silvinho, bon là ça a été un fiasco. Derrière, tout de suite derrière, Garcia, là où il est très fort, c'est pour remonter les mecs comme des pendules. Tout de suite, dès qu'il est arrivé, boum, mentalement, ça a changé. Les résultats ont changé. Pourquoi ? Parce que ces mecs ont du talent. Ils savent jouer. Tu peux mettre après, derrière, tu peux mettre de la tactique, tout ça. Boss, il a raison. Et puis Doudou en a parlé, mais ça vient aussi de l'académie. Si ça devient une ADN, est-ce que c'est pas une ADN à l'Olympique Lyonnais quand tu prends aussi, alors peut-être que faut pas taper non plus que sur les joueurs, peut-être aussi que ça vient des dirigeants, peut-être que dès l'académie ils sont peut-être mis trop dans le coton et que quand tu leur donnes beaucoup, pour pas dire énormément d'argent à 12, 13 ans, 14 ans pour qu'ils viennent, pour qu'ils intègrent ton académie, pour pas qu'ils aillent ailleurs, déjà à cet âge-là, ils savent qu'ils peuvent gagner du pognon sans trop se faire de mal. Tu vois, et ils touchent plus.
Après, sur l'académie, faut pas forcément généraliser à partir des cas actuels. Parce
non, mais c'est quelque chose que j'ai connu aussi à Auxerre, c'est pour ça que j'en parle.
Ouais.
Et ça a été
Ryan
Cherki
ou Oussem Aouar qui sont pointés du doigt par les dirigeants, par les supporters et puis un peu par un certain nombre de suiveurs parce que vous avez quand même des Maxence Cacré, des Mal Augusto, Castello Luqueba,
ou
même
en l'occurrence
Pierre Caloulou. Alors, faut pas généraliser. Les têtes de gondole sont un petit peu suffisantes.
Mais après, Grégory nous rejoint, Lionel au 32-16, supporter de Lyon. Salut Greg.
Salut
Greg.
Bon, il va y arriver, Peter Boss, à changer les mentalités.
Bah, j'espère, en tout cas, c'est nécessaire, donc faut bien que quelqu'un s'en occupe à un moment ou à un autre. J'ai l'impression qu'on remet à plus tard depuis 2-3 saisons. J'ai l'impression qu'en fait, on est en chantier tous les ans depuis 3 ans. Et je pense qu'il y a des bons coups de pied aux fesses à mettre à certains joueurs, parce que franchement, autant je peux comprendre qu'un joueur soit pas très bon techniquement, autant être dilettante sur le terrain, faire semblant de venir défendre. Moi, ça fait 2 ans que j'ai à voir dans le collimateur à cause de ça. Aussi pétri de talent soit-il, il m'agace, quoi.
C'est ce qui est le plus énervant. C'est que ça arrive souvent à des joueurs, à des joueurs qui sont pétris de talent. Et donc, tu as une attente incroyable. Et c'est aussi pour ça que le public, quelque part, je les comprends, parce que quand tu as des joueurs comme ça, tu vois le talent et que le mec n'utilise pas le dixième de son talent, mais tu dis, mais c'est pas possible. Mais si j'avais, moi, ce talent-là, tout le monde se dit ça dans les tribunes, mais je me défoncerais pour mon club, pour mes copains, déjà pour mes copains, pour mon club, pour mon équipe, pour mes supporters. Et ça, quand t'as des mecs qui ont du talent, le fait de ne pas avoir envie, mais c'est horrible,
ouais, ça
horrible.
Ça reste un sport court. Enfin, moi, je comprends pas qu'on puisse jouer au football sans avoir la volonté d'essayer de gagner. C'est un truc, ça me rend dingue. Il faut avoir un minimum d'esprit de compétition quand on est dans ces sports-là. C'est pour enfoncer le clou et aller gagner des points et aller gagner des titres. Moi, le dernier match face à Nice, le dernier match de la saison dernière, j'étais hystérique. Comment on peut laisser passer ce match-là? Personne n'a joué. C'est pour la Champions League. Et derrière, les gars, ils vont vous expliquer que la saison suivante, ils veulent quitter le club parce qu'on ne joue pas la Champions League. Si on ne la joue pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le niveau. Merde.
Ouais, mais Greg, on l'a dit, Doudou l'a dit. Club tremplin. La plupart, ils viennent pour un club tremplin. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont l'amour du maillot?
Franchement. J'ai du mal à comprendre. On parlait d'avoir tout
puisque
à l'heure.
Puisque les mecs, ils veulent se barrer.
Pas l'amour du maillot, quoi.
Ouais, enfin, ça après, c'est le foot actuel, c'est ça. Hein, tous les clubs sont des clubs tremplins. Mais après, pour que le tremplin fonctionne, il faut se donner sur le terrain pour qu'il y ait un gros transfert. Et
c'est ce qu'ils n'ont pas compris.
Bah oui, c'est ça. Greg, merci d'être venu au 32-16. À bientôt.
Avec plaisir.
Salut.
Et on y croit.
Edouard, merci. Petit derby, eh ben, écoute, on considère rien. Ça comme un petit derby dimanche, Lyon-Clermont.
Oui, quand même. Ouais. En tout cas, il y a de l'inédit parce que ça sera la première fois en Ligue 1, même si les deux équipes se sont déjà rencontrées en Coupe de France, et c'est un mauvais souvenir pour les Lyonnais. Puis c'est inédit parce que quand même, sur le papier, il y en a une qui est quand même beaucoup plus forte que l'autre, hein, oui, individuellement. Oui. Hein, oui, et puis finalement, quand on regarde le calendrier, le classement, il y en a une qui est deuxième, l'autre qui est 17e. Et je vous laisse placer les noms en
exactement.
Face des numéros.
Salut Edouard, bonne soirée. Dans salut un instant, supporter de Montpellier, est-ce que vous êtes prêt à accepter un départ d'Andy Delors? Est-ce que vous le comprendriez? 32-16 pour débattre. Les infos dans une seconde, à tout de suite.
RMC Football Show, Jean-Louis Tour.
Il est 18h44, c'est le RMC Football Show avec Lionel Charbonnier. On lance la troisième journée de Ligue 1 ce soir avec à 19h Marseille au programme. L'OM et Steve Mandanda qui vont donc se déplacer à Nice pour un gros match. C'est dimanche à 20h45. Mandanda, la concurrence va-t-elle le booster ou le plomber cette saison? Vous entendrez Sampaoli sur le sujet. On vous donnera les infos mercato à Marseille avec Florent Germain après 19h. Mais place à Montpellier tout de suite, Julien Landry nous rejoint, notre correspondant sur place. Salut Julien.
Salut Jean-Louis, salut Lionel, salut à tous.
Montpellier qui reçoit Lorient dimanche à 15h et on va évoquer le cas Andy Delors. Avant que tu nous donnes la version à Montpellier pour un éventuel départ du capitaine Andy Delors, écoutez Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice, qui s'exprime sur le sujet avec Clément Brossard, c'était aujourd'hui.
Je vais être très transparent, dimanche soir sur un plateau télé, on m'a parlé d'Andy Delors. Et je n'avais jamais entendu parler d'Andy Delors à l'OGC Nice. Donc évidemment que j'ai posé la question à Julien, et Julien me dit, je ne sais pas d'où ça sort. Une fois qu'on m'a posé la question sur Andy Delors, je me dis, tiens, est-ce que c'est une porte qui s'ouvre? Et si c'est une porte qui s'ouvre, évidemment que je vais demander au club, à Julien et évidemment à la direction, d'ouvrir un peu plus la porte.
Ouais, sous-entendu, bon, il y a quand même quelque chose avec Andy Delors, voilà. Comment à Montpellier on prend tout ça, Julien?
Ah, ça crispe, hein. C'est grosse crispation là, parce qu'on en avait parlé en début de semaine, Jean-Louis, sur le mercato montpelliérain où la porte était ouverte pour le coup pour trois joueurs montpelliérains, Gaëtan Laborde, Florent Mollet, Junior Sambia. Celui qui semblait le plus à même de partir était Gaëtan Laborde, auteur d'une très bonne saison la saison dernière avec 15 buts. Mais voilà, ça fait près d'un an et demi que Gaëtan Laborde a un bon de sortie et que ben il y a finalement aucun club qui arrive. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais évoqué le départ d'Andy Delors, hein, parce que depuis qu'il est à Montpellier, Delors le clame haut et fort, et d'ailleurs il ne ment pas, et Montpellier c'est son club, c'est le club qui le fait rêver depuis qu'il est petit, il est allé au stade, il vit à 7, il est avec ses amis, et c'est vrai qu'en plus c'est le nouveau capitaine, que l'année dernière lorsqu'on avait parlé du nouveau stade, il avait dit ben, je me verrais bien rentrer au nouveau stade en tant que capitaine avec Montpellier, et c'est vrai que ça n'a jamais été une possibilité, et c'est vrai que cette rumeur qui a commencé à sortir hier, et qui n'est plus qu'une rumeur, il y a vraiment des contacts, ben, ça commence à crisper tout le monde. On sent bien que Andy Delors est un peu embêté et Laurent Nicolin en plus a fait une déclaration dans le sens où il met clairement la pression sur son capitaine ce matin chez nos confrères de Midi Libre. La seule question qui se pose est de savoir si le joueur en tant que capitaine veut rester à Montpellier. S'il doit partir, c'est qu'il aura décidé. Si le joueur est attaché au club, il reste. S'il n'est pas attaché au club et désire partir, et si les propositions nous satisfont, mais ce sera pas le fait du club. Donc clairement aujourd'hui,
pression, ouais.
Clairement ils mettent la pression à Andy Delors avec cette pression de l'amour du maillot, de l'amour du club. Et voilà, Andy Delors aujourd'hui est embêté. Mais la vraie question, c'est que Montpellier a besoin d'argent. Clairement, c'est très compliqué financièrement.
C'est quoi, 17 millions?
Ben, le problème, c'est que ça sera loin de ces montants-là, peut-être, hein, Lionel. C'est 29 ans pour Andy Delors, alors que Gaëtan Laborde est plus jeune. Je pense que, ouais, peut-être 15 millions, même si tout le monde aimerait que ça soit beaucoup plus élevé. Mais dans ce marché actuel qui n'a pas du tout bougé pour le mercato, on a du mal à se faire une idée des prix. Et voilà, aujourd'hui, Laurent Nicolin a besoin d'argent, parce que voilà, le Média Pro est passé par là, la crise du Covid, le problème d'abonnement. Et que oui, ils espéraient une vente cet été pour, alors pas éponger les dettes, mais pour être un peu plus serein pour l'avenir. Et que s'il y a finalement Candy Delors sur lequel il y a une proposition sérieuse et qu'elle est difficilement refusable, le club réfléchira, je pense, très, très sincèrement à vendre Andy Delors, même si évidemment personne n'a envie qu'il parte.
C'est ce que doit se dire Nice, parce que sinon ils font même pas d'offre, tu vois. Ils doivent savoir que la porte elle est un peu entrouverte et que Montpellier a besoin de vendre. C'était ça les infos de Loïc Tanzi hier, hein, que Nice allait faire une proposition très bientôt. Donc voilà, c'est.
Alors après, voilà. ce qui vraiment, et je pense que c'est ça qui crispe aussi, c'est que Andy Delors, c'est plus qu'un joueur aujourd'hui. Bah oui, à Montpellier. Oui. C'est le capitaine, c'est l'âme du club, c'est un peu la tête d'affiche du nouveau projet montpellierain, un peu sexy, on va chercher une place européenne. Et Andy Delors, il s'est inscrit dans ce projet-là, il s'est inscrit à long terme. Et vendre Andy Delors, c'est vendre un peu tout le beau projet montpellierain. Donc, la question, elle se pose là aussi, Lionel, quoi. Tu vends pas qu'un joueur avant d'Andy Delors, hein. Tu vends ton capitaine, tu vends l'âme de ton club, mais tu vends un peu tout. Donc, vrai. La réflexion, elle doit aussi être là, du côté des dirigeants et même Andy Delors. Il doit être dans une position aussi très délicate aujourd'hui, Andy Delors.
Pas facile à gérer, même pour le joueur. Hein.
Ouais.
Même pour le président, pardon, il n'y a pas que le joueur. Pour le joueur, c'est compliqué parce que déjà, à la limite, on met la balle dans son camp.
Là, clairement, Laurent Nicolas, c'est ce qu'il a fait.
Donc, tu choisis, mais écoute, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut demander aussi un supporter.
Eh ben, Lucas est là, au 32-16.
Ouais, il faut demander un supporter.
Il va pouvoir donner son avis. Salut, Lucas.
Salut à tous. Merci de m'accueillir sur votre radio.
Bon, tu te prépares à avoir le cœur brisé?
Je me prépare, mais j'espère ne pas l'avoir.
Ouais. Julien disait, c'est un peu plus qu'un joueur, Andy Delors, à Montpellier. C'est ça ce que ça te ferait s'il partait?
Ouais, c'est plus qu'un joueur. Bon, difficile de dire mieux que ce qui a été dit précédemment. Ben, c'est le capitaine. Le capitaine, c'était Vitorino Hilton depuis de nombreuses années, mais depuis l'arrivée de Delors, c'était un véritable capitaine dans l'âme, sur le terrain comme dans les vestiaires. C'est lui qui poussait l'équipe. Et puis au-delà d'être un capitaine, c'est des statistiques quand même notables. 15 buts la saison dernière, 9 passes décisives également. Il a retrouvé une régularité qu'il n'avait pas réussi à avoir dans ses précédents clubs. C'est quelqu'un qui aime la région, qui aime le club. Donc ce serait vraiment une énorme perte de s'en séparer.
Ouais, c'est un mec comme tous les fans adorent, c'est-à-dire que le mec il mouille le maillot au-delà. Ah ouais, au-delà des statistiques. En plus, t'as les statistiques, mais le mec, c'est ton premier. Moi, il me fait penser, toute proportion gardée, mais un peu à Cavani. C'est-à-dire que le mec, il est capable, c'est le premier défenseur. Quand t'as un mec comme ça qui est devant, qui est capable d'aller tacler, son stopper ou son latéral, si quand il va sur le côté fermé là-bas, je peux te dire que derrière, ça te donne la grinta. C'est toute une âme. Ouais. Mais c'est hyper important.
Et puis, comme le disait Lucas, c'est en plus. C'est la régularité qu'il a retrouvée, parce qu'Andy Delors, c'était une bonne saison à Caen, c'était une bonne saison à Toulouse, c'était une bonne saison à Wigan, mais il n'avait jamais confirmé sur la longueur.
Ouais.
Et là, c'est quand même 3 saisons pleines à Montpellier. C'est 3 saisons à plus de 10 buts, à quasiment 10 passes décisives. Ça fait partie des meilleurs buteurs en Ligue 1 depuis 3 saisons. Mm-hmm. Et puis, il est très proche de Christophe Galtier. C'est des garçons qui se connaissent très bien, parce que Christophe Galtier a les attaches à 7 et que Andy Delors est de 7.
Il est né à 7. Hein.
Et que Andy Delors a changé d'agent à l'intersaison. Et que c'est des très proches de Christophe Galtier, c'est le gendre de Christophe Galtier qui s'occupe aujourd'hui des intérêts d'Andy Delors. Donc voilà, il y a beaucoup de relations aussi.
Alors, et donc Galette, il nous dit qu'il ne savait pas.
Il a joué fine.
Et on ne la fait pas, nous. Lucas, merci d'être venu au 32-16. À bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Salut, Julien, merci également.
Merci, messieurs.
Bon match au week-end. Et alors, je voulais terminer quand même sur le dossier, parce que Galtier a parlé de Delors. Tu sais, Lionel, que Galtier cherche un avant-centre d'expérience. Il a aussi parlé de Bourak Yılmaz. Ça a été démenti par Jocelyn Gourvennec. Intérêt de Nice ou un quelconque intérêt pour Yılmaz. Gourvennec a dit, j'ai parlé avec lui, il sera là cette saison. Écoute, Christophe Galtier aujourd'hui avec Clément Brossard.
J'ai lu beaucoup de choses aussi sur Bourak Yılmaz, les déclarations des uns et des autres. Moi, quand un joueur et un bon joueur m'appelle pour me dire qu'il est intéressé de venir travailler avec moi, je lui donne une réponse favorable. Point à la ligne.
Il met un peu le feu à Lille, là, non?
Mais il n'y a pas une vengeance, là, derrière tout ça. Là.
Tu crois? Avec les temps? Parce que c'est mal passé?
Oui, sûrement. Mais enfin, là, si tu veux mettre le why dans le vestiaire, tu fais pas mieux. Hein.
Ah, ouais.
Attention, Galette est très malin et c'est un garçon très intelligent et il sait comment ça se passe dans un vestiaire. Et là, mais écoute, moi.
Il vaut mieux Yılmaz ou Delors à sa place? Tu veux un avant-centre d'expérience?
Oh, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes.
Et c'est pas le même âge.
C'est pas le même âge, ouais. Je sais pas. Moi, alors, tu sais quoi? On va demander à Delors ce qu'il veut vraiment faire. Et s'il veut pas y aller, tu prends Yılmaz.
36 ans, hein, Bourak Yılmaz. Hein.
Ouais.
Bon, voilà donc pour la recherche d'un avant-centre à Nice. Pas. Ah non, il les fait pas, ça c'est vrai. Ça dépend. En sélection, il les fait. À Lille, il les fait pas. Non. Nice qui sera face à Marseille donc dimanche 20h45. Marseille, on en parle dans un instant. La concurrence va-t-elle booster Steve Mandanda ou au contraire le plomber? 32-16 pour débattre. Florent Germain sera là avec des infos Mercato à Marseille. On sera à Bordeaux également et à Brest pour l'avant-match de Brest-PSG, le premier match de cette troisième journée de Ligue 1. C'est le RMC Football Show sur RMC. N'oubliez pas le rendez-vous à partir de lundi 18h, c'est Roten sans flamme, Jérôme Roten et la Dream Team pour débattre, pour accueillir les plus grands acteurs du foot. Ce sera du lundi au vendredi entre 18h et 20h sur RMC avec les historiques de la Dream Team et des nouveautés que vous découvrirez lundi à 18h. A tout de suite pour débattre autour de Mandanda.
RMC Football Show.